sur RFI, à suivre sur RFI et France 24, Mardi Politique.
Radio G 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir, bonsoir. Début de semaine, une nouvelle semaine toute petite, mais une nouvelle semaine tout de même. Il est vachement beau en face de moi, on vous le présentera dans quelques instants. Il est très bien habillé, il sera avec nous en fin d'émission. Mais avant ça, donc, le programme de la semaine. Demain, mercredi, nous serons à WeForge et on s'intéressera notamment à Nectar avec Thibaut. Nectar, c'est le nom de la société et Thibaut, c'est le créateur de la société Nectar. Si vous n'avez pas tout compris, restez avec nous demain à 18h10 et vous en saurez un petit peu plus. Jeudi, on aura l'ONPL, une petite partie de l'ONPL et on parlera aussi de cours en folie. Et ce soir, on va du côté de Saint-Barthélemy d'Anjou avec la médiathèque de la Renloup, partenaire de l'émission. On se donne fréquemment rendez-vous avec Aurélie et son équipe. Mais ce soir, c'est avec nous, avec toi, Nolwenn, qu'on s'y intéresse. Bonsoir, Nolwenn.
Bonsoir, Pierre-Benoît. Oui, ce soir, on accueille Aurélie d'Hernoncourt. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es la responsable de la médiathèque de la Renloup et tu es venue accompagnée de Sarah Chassa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez toutes les deux avec Lorelai Richard. Bonsoir.
Bonsoir.
Au Sésame. Ensemble, on va parler des prix de Sésame. C'est quoi, c'est où, c'est pour qui et quand? C'est des questions auxquelles on répondra tout à l'heure. En deuxième partie de parcours, on parlera de Nico de Tagada Jones. Je vous en dis pas plus. On aura aussi Vélopédia, la chronique pédale de Topette, ainsi que Mathéo pour une chronique d'actu. De quoi on va parler ce soir?
Bonsoir Nolwenn, bonsoir à tous. Et ben on va parler de nous un petit peu parce que ça fait pas de mal aussi de parler de la radio. Et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé autour du FSER dans le projet de budget 2025. Voilà.
Topette, c'est tous les soirs de 18h10 à 19h en podcast sur radio-g.fr et aussi sur les réseaux sociaux @topetteradio-g.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Avant tout ça, on débroussaille les podcasts de Mauve et on fait un petit panorama des agricultures urbaines.
Bienvenue dans Panorama, une chronique de l'association Mauve. Je vous propose de défricher ensemble ce que sont les agricultures urbaines. Mais de quoi s'agit-il? Partons à la rencontre des acteurs angevins qui font ces agricultures urbaines plurielles pour parler de jardins potagers, de maraîchage, de biodiversité, de permaculture ou d'initiatives près de chez vous. En résumé, nous évoquons la ville grandeur nature pour concrétiser vos envies de ville comestible, fertile et désirable. Dans cet épisode, nous parlerons de paysagisme, de biodiversité et de vélo avec Eddy Pinault, cofondateur de Cycle, paysagiste et jardinier à vélo. Jardinier donc, globetrotteur infatigable et adepte des mobilités douces, Eddy sillonne pendant 4 ans à vélo les routes d'Allemagne, de Pologne, de Turquie et des Émirats Arabes Unis pour des missions de paysagiste itinérant avant de poser ses valises à Angers. Son métier, dessiner et concevoir jardins et potagers urbains en laissant la part belle à la biodiversité, et tout ça à vélo. Bonjour Eddy.
Bonjour Anne.
Alors, déjà pour toi, qu'est-ce que évoque l'expression agriculture urbaine ?
Les agricultures urbaines, c'est un vaste domaine qui peut aller de la production professionnelle de légumes ou voire de d'élevage en milieu urbain, périurbain, ou le petit potager particulier, voilà. Et nous, chez Cycle, professionnellement, ça regroupe plutôt l'animation de jardins partagés dans les résidences des bailleurs sociaux.
Et du coup, avec ton expérience à l'étranger et celle que tu vis désormais avec Cycle, c'est quoi être paysagiste itinérant pour toi ?
Paysagiste itinérant, ça renvoie à de belles années de ma vie, déjà assez loin derrière moi. C'était le fait de se déplacer en fait à vélo, pour le coup, quand j'étais un peu plus jeune, et de m'arrêter au gré des opportunités, notamment professionnelles, pour exercer mon métier de paysagiste. Et donc j'ai pu le faire dans quelques villes en Europe et au Moyen-Orient.
Et à travers donc ces expériences, ces animations aussi avec Cycle que tu mènes, le végétal est-il un facteur de lien social?
Ah oui, je le pense, hein. Notamment pour prendre le cas de ce qu'on fait avec Cycle, donc l'animation entre autres, hein, parmi les services qu'on propose, l'animation de jardins partagés crée un lien social très fort. On le voit, hein, dans le cas des résidences là qu'on accompagne, ça permet aux habitants d'avoir disons une excuse, quelque chose qui les invite à descendre de chez eux et à rencontrer leurs voisins par le biais du jardin, quoi. Et ça crée vraiment des moments très forts et très très sympathiques.
Donc on pourrait même dire que être paysagiste aujourd'hui, c'est un acte militant, aussi bien au niveau social que dans la biodiversité, dans toutes ces actions que vous menez chez Cycle.
Oui, alors je ne sais pas si on pourrait l'élargir au métier de paysagiste au sens large, parce qu'il y a aussi des paysagistes qui font beaucoup d'aménagements contre le vivant, disons, en imperméabilisant, etc. Mais c'est vrai qu'on peut le voir comme un métier militant, et nous, chez Cycle, on l'assume pleinement. On se déplace à vélo, on n'utilise pas de produits, on utilise des matériaux locaux, on désherbe peu. Bref, on cherche à laisser la place au vivant, et puis effectivement, dans les services qu'on propose, notamment via l'animation des jardins partagés, bah, c'est des métiers un peu nouveaux, du paysagiste jardinier animateur, qui est plus vraiment la même chose que le métier de paysagiste qu'on peut avoir en tête classiquement.
Et pour aller plus loin, as-tu un conseil, une lecture à nous partager pour terminer cette chronique ?
Ouais, alors effectivement, on a notre petite bible du jardin potager qu'on utilise pour l'animation de nos jardins potagers, parce que effectivement, en tant que paysagiste, on est plutôt habitué aux végétales pérennes, aux arbres, aux arbustes, aux vivaces, mais un peu moins aux végétaux annuels que sont les légumes. Et donc, on utilise le guide du potager bio de Terre Vivante, qui décline vraiment très bien tous les modes de culture, tous les itinéraires culturaux pour une grande quantité de légumes et les pratiques écologiques au jardin.
Merci beaucoup, Eddy. Panorama est une chronique de l'association Mauve, produite par Radio G. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations urbaines. D'ici là, gardons le contact sur notre compte Instagram, mauve.asso. À bientôt.
Le panorama complet de Mauve est à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Et nos invités sont à retrouver tout de suite.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce soir, on parle des prix du sésame, à ne pas confondre avec le sésame de Saint-James. Là, c'est le sésame avec un Z, et on va parler de ce que c'est. Le sésame, pour rappeler un petit peu, tout le monde ne connaît pas. Est-ce que, Sarah, c'est possible de rappeler ce que c'est le sésame? Donc, c'est une association nationale, un réseau de coopération entre élus du CSE. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y retrouve? Pour qui c'est destiné?
Oui, alors donc ben, vous l'avez très bien dit, c'est une association qui est nationale, et donc en fait on est une association à destinée au CSE. Donc quand les CSE adhèrent chez Sésame, on leur propose donc de la billetterie avantageuse. La plupart du temps, c'est la première chose qui vient en tête. Et ensuite aussi des formations pour les élus, des aides juridiques, un accompagnement tel que du secrétariat, de la comptabilité. Et aussi, donc, notre spécificité, c'est les actions culturelles, dont les prix culturels dont on va discuter.
Moi, j'ai une toute petite question, si je peux me permettre. Les CSE, qu'est-ce qu'ESACO?
ESACO, c'est l'association d'une entreprise de plus de 50 salariés. Donc, voilà, quand une entreprise est suffisamment grosse, elle peut élire des représentants de cette entreprise. Et voilà. Et donc, c'est ces personnes-là avec qui on est en contact.
C'est ceux qui envoient en vacances, souvent.
Exactement.
Caricaturés.
Et qui ont les tickets cinéma pas chers.
Voilà.
Et donc, vous parliez d'actions culturelles que vous faites. Il y a notamment le prix du sésame. Est-ce qu'on peut redonner un petit peu de contexte? Qu'est-ce que c'est, Sarah? peu importe.
Peut-être le relay, tu veux.
Oui, alors en fait, le prix roman avant tout, parce qu'il y a le prix roman et le prix BD, et on va parler du reste des activités culturelles, mais le prix roman lui-même existe déjà depuis 27 ans, Sésame. Il faut savoir que Sésame existe depuis 40 ans, sachant que les inter-CSE existent l'année prochaine, on va fêter les 80 ans, je vais y arriver, des inter-CSE, et Sésame existe depuis 40 ans. Donc 27 ans pour le prix roman, ça commence à peser, si on peut le dire ainsi. Donc ce sont des prix qui rassemblent un bon nombre de lecteurs, de lectrices, qui votent tous ensemble pour élire un lauréat d'une sélection de 10 romans qui ont été faits au préalable avec un réseau, donc des médiathèques. C'est pour ça aussi qu'Aurélie est là aujourd'hui. Les médiathèques, les librairies, parfois les bibliothèques évidemment aussi, et puis tous les comités d'entreprise qui souhaitent participer. Donc tous ensemble, voilà, on lit beaucoup, et puis on choisit voilà le ou la chouchoute de la sélection chaque année.
Et donc, il y a des comités de sélection. Comment ça se passe, la sélection? Quels critéria? Qui sélectionne les romans?
Vas-y, Sarah, si tu
donc,
veux.
Donc, on a deux comités de sélection. Donc, un qui est basé sur Nantes et un autre sur Angers. Donc, où, justement, on prend un échantillon de tous nos participants. Donc, voilà, des professionnels du livre, comme Aurélie, et aussi des élus passionnés, des participants qui sont là depuis les débuts. Et donc, de février à septembre, on se retrouve une fois par mois. Où on fait le point sur toutes les lectures qu'on a fait pendant ce mois-ci. Et voilà, on choisit gommette verte pour celui qu'on a adoré, gommette rouge pour celui qu'on a détesté. Et voilà, l'idée, c'est de à la fin retrouver une sélection de 10 romans qui ont des sujets variés, différentes maisons d'édition, aussi voilà, des parutions assez récentes. Voilà.
Aurélie, tu voulais rajouter quelque chose, je crois.
C'est aussi des petites maisons d'édition. Et ça, exactement. C'est important pour c'est nous. Vrai. C'est vraiment valoriser aussi des romans qui n'ont pas une presse qui peut être celle d'un concours ou autre. On est des prix. Et c'est vraiment important. C'est vraiment des petites maisons d'édition.
Est-ce qu'on a déjà les lauréats ou ça doit rester secret ou on peut avoir des exclusivités?
La lauréate 2024. La lauréate.
Oui, on peut vous donner la lauréate 2024. Donc c'est un prix, ça y est, qui est terminé. Donc c'est Pauline Hullier pour Les Contempler. Un roman qui a beaucoup fait parler puisque c'est l'histoire d'une fémène qui s'est fait emprisonner à Tunis. Donc fémène, si vous voyez pas trop ce que c'est, voilà, ce sont des féministes très très engagée qui s'est dénudée à Tunis, donc voilà, une ville un peu moins libre que ce qu'on peut trouver en France évidemment. Donc elle s'est fait emprisonner à Tunis et elle s'est retrouvée dans une toute petite cellule entourée de 30 femmes à qui elle a voulu donner parole dans son roman. Et voilà, c'est ce roman très engagé qui a été sélectionné.
Et est-ce que la sélection, du coup, elle a déjà été faite, elle est terminée ou pas encore?
Oui, oui, oui. Alors là, pour l'année 2025, c'est déjà fait. Les annonces sont faites un peu partout, aussi bien dans nos comités d'entreprise que aux médiathèques, bibliothèques, etc. Je peux vous donner la liste peut-être plus tard. Je ne sais pas si ça vous intéresse.
S'il n'y en a pas 60, on peut prendre le temps.
Bien sûr. Non, il y en a toujours 10. Alors chaque année, c'est la règle. Hein, c'est toujours 10 romans. Je peux vous donner les titres parce que ça risque d'être très long. Sinon, si je commence à vous faire un résumé de chacun. Mais donc nous avons Rose Museau de Jean-Pierre Ancel, Danser encore de Charles Aubert, Les Dragons de Jérôme Collin. Avant la forêt de Julia Collin. Alors, ils ont le même nom de famille, mais ils n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Le dernier thé de Maître Soho de Cyril Gély. Pour mourir le monde de Yann Lespoux. Le chien des étoiles de Dimitri Rouchon-Bory. Simka d'Oriane Velten. Blanche de Claire Vézin. Et Charrue tordue d'Itamar Veira Junior.
Et on continuera à parler des prix Sésame tout à l'heure, mais on fait d'abord une pause musicale et on revient ensemble sur le 101.5 FM de Topette.
que je le pensais.
De retour avec Aurélie Dernoncourt de la médiathèque de la Ranloue de Saint-Barthélemy. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi on a besoin de faire appel à des professionnels pour ce prix, les prix des Césames? Pourquoi c'est important?
Pourquoi tu as été impliquée, toi Aurélie, au nom de la médiathèque de la Ranloue dans ce prix Césame au travers de Sarah et de Lorelai?
C'est un prix historique en fait en Anjou et dans tous les pays de la Loire, parce que il a été initié par quelqu'un qui était au Sésame d'Angers, et donc les médiathèques se sont assez rapidement investies. Hein, ça fait très longtemps que la médiathèque de la Ranloue, mais aussi beaucoup de médiathèques du département, de l'agglo, participent au prix, et ça nous semblait être un prix vraiment intéressant dans le sens où ce sont les lecteurs qui élisent. Et ça, c'est vraiment un point majeur. C'est que c'est pas un prix de connivence, c'est vraiment un prix de lecteurs. Chaque vote a le même poids. Et ça, c'est vraiment super. Et nous, en tant que promoteurs de la lecture publique, des romans, c'est hyper important de pouvoir avoir cette proximité avec nos lecteurs, et puis de leur proposer ces échanges. Et puis également, évidemment, le fait que, mais peut-être tu vas en reparler, Sarah, c'est le fait que les auteurs passent pratiquement tous dans les médiathèques, dans les entreprises, et qu'on puisse les rencontrer véritablement.
C'est entièrement congruent avec le reste des activités de la médiathèque, de la programmation en fait, Aurélie.
Complètement. Oui, ça, on est très investi dans ce prix.
Et pour parler des rencontres d'auteurs, donc il y en aura plusieurs, 35 en tout l'année dernière sur le territoire. Elles passeront dans quelle bibliothèque à Angers, Lorelai?
Alors, évidemment, déjà, la médiathèque de la Ranloue. Après, pour le reste, est-ce que tu as la liste en tête, toi, Sarah? Non, sur Angers
On ne l'a pas encore dévoilée,
ouais,
c'est ça.
On l'a pas encore dévoilée, c'est ça. On a fini le calendrier, ou presque, avec les auteurs, parce que bon, ça reste quand même une certaine logistique avec les maisons d'édition, qui sont plus ou moins joignables selon les maisons. Et du coup, ouais, c'est quand même assez compliqué de tout mettre en place. Après, il faut s'adapter aux programmations de chaque médiathèque. Donc non, on va attendre encore quelques jours avant de tout dévoiler, mais ça va venir très vite, ne vous en faites pas.
Est-ce qu'on peut savoir sur quelle période elles auront lieu, ces rencontres?
Oui, alors globalement, c'est entre mars et octobre, donc au printemps finalement, parce que, bah, comme on vous le disait juste avant, on a toute une logistique vis-à-vis du comité de sélection en fin d'année et début d'année suivante. Il y a pas mal de choses, voilà, qui se passent chez Sésame, et puis bah, bien sûr dans les médiathèques, les maisons d'arrêt, etc. Donc on commence à partir de février ou mars, voilà, de l'année suivante.
Et pour revenir au vote, est-ce qu'il y a des conditions pour voter? Comment on vote? Comment ça se passe, Sarah?
Alors, comment ça se passe? Il faut lire au minimum 3 ouvrages, donc parmi les 10 sélectionnés. Et ensuite, à partir de ça, bah, on peut faire un podium à partir de 3. Donc l'idée, c'est si on a lu entre 3 et 10 livres, derrière, on prend ces 3 coups de cœur et on les classe du premier au troisième.
Et est-ce que toi, Aurélie, tu as déjà pu lire un des livres de la sélection ou pas encore?
Je les ai tous lus.
Oui, elle fait partie de... Est-ce que tu as un coup de cœur pour le moment?
Je dirais rien du tout. Je propose à mes lecteurs de les découvrir. Je les présente, je les valorise, mais je dis jamais mon coup de cœur avant parce que sinon on influence les votes et il en est hors de question. Mais il est comme chaque année. En tout cas, moi, je participe à la sélection des romans et c'est vraiment on y va avec nos tripes. Donc on se bagarre, on essaie de trouver les meilleurs pour nos lecteurs et on est tous super contents de la sélection qui est faite. Elle est géniale. Il faut absolument la lire.
J'ai une toute petite question technique. T'as mis combien de temps à lire les 10 livres, toi, Aurélie? Parce que moi, un livre, il me faut presque une année entière. Non,
ouais, j'en sais rien.
Quelques semaines, j'imagine.
Oui.
Ouais, pour les comités de sélection, c'est à peu près 80 livres de lus sur 6 mois.
Environ, ouais, c'est ça.
Wow.
Et pour parler un petit peu plutôt des actualités de la médiathèque de Laurent-Loup, le vendredi 15 novembre, du coup, il y aura une conférence, la peinture dans l'œuvre d'Hergé. Est-ce que ça parlera de quoi? Quel va être le sujet?
Eh bien, en fait, on a une exposition à la médiathèque autour d'œuvres j'ai mangé son nom de
Luc Révillon.
Non, c'est de Monsieur Berthelot, un artiste en fait qui a repris des personnages de Tintin qui les a peints à la manière de grands artistes du début du XXe siècle, enfin de tout le XXe siècle. Et on propose d'aller chercher quel est le personnage, d'aller chercher quel est l'artiste qui a été inspiré par cette œuvre. Et dans cette lignée, Luc Révillon, qui est un spécialiste de l'œuvre de Tintin, qui est un spécialiste de la BD en général, va venir nous parler de l'influence de l'art contemporain dans l'œuvre de Hergé. Vraiment, il va reprendre les influences qu'a eu Hergé et qui ont découlé, qui ont marqué Tintin et ses épisodes.
Et une semaine plus tard, du coup, il y aura le jeudi 21 novembre un documentaire, ça s'appelle Tous dehors, ce sera projeté donc à la médiathèque, c'est un documentaire d'Anne Jochum et de l'association Préparons Demain. Pareil, de quoi ça va parler, de quel sujet?
Alors en fait, c'est autour d'un sujet qui nous intéressait et la médiathèque et surtout le multi-accueil Lilo Câlin à Saint-Barth et le village Pierre Rabhi avec lequel on fait toujours des partenariats et ce documentaire explique l'importance pour tous les enfants dès le plus jeune âge d'être en contact avec la nature, avec l'extérieur et de valoriser vraiment cette interaction avec la nature qui a parfois dans nos sociétés contemporaines un petit peu perdu de son intérêt. Enfin, en tout cas, les enfants vont un petit peu moins dehors qu'il y allait, et pour autant c'est très important pour leur vie intérieure, sensible, intellectuelle, pour leur santé. Enfin voilà, c'est majeur et ce documentaire nous montre pourquoi c'est aussi important.
Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a eu un sujet sur France Info, sur les enfants d'intérieur, un phénomène qui existe depuis la sortie du Covid. Je te laisse reprendre, Nolwenn.
Il y aura un débat aussi après, c'est ça? Est-ce qu'il y aura des intervenants? Il y aura...
Alors, nos collègues du village Pierre Rabhi et du multi-accueil qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, qui vont mener ce débat et qui vont interroger tous les participants aussi, parce que l'idée c'est de faire sortir nos propres pratiques, de s'interroger sur ce qu'on fait en fait, parce que c'est pas didactique, l'idée c'est pas de dire ce qui est bien ou pas bien, c'est comment on fait avec des éléments pratiques, et puis qu'est-ce que ça apporte, et que chaque personne qui sera présente puisse apporter son jugement.
Et après, la semaine du 25 au 29 novembre, il y aura des rencontres et des ateliers avec l'illustratrice Wei Wei. Ça sera auprès des enfants, c'est ça, dans les classes?
Oui, tout à fait. Elle vient pendant quelques jours à la médiathèque pour travailler avec les classes. Et puis, il y aura une rencontre tout public le mercredi 27 novembre à 15h. Ça sera un atelier et une rencontre en même temps, en fait.
On pourra reparler de tout ça juste après, on donnera les infos pratiques en fin d'émission, mais d'abord on écoute Vélopédia avec toi, Nico.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon, avec Nico, dans Topette.
Quand on partait de bon matin, quand on...
Bonjour à tous, en ce début d'automne, je suis allé me balader
à bicyclette.
et à la vue de toutes ces feuilles mortes, mais surtout parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bichonné mon fidèle destrier, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'un professionnel de la réparation de vélos. Et j'ai poussé la porte de Harderoux, située rue Bressigny. J'ai rencontré Baptiste, ancien ingénieur automobile, à qui j'ai demandé si l'automne n'était pas la saison des amours et de la tendresse pour son vélo.
C'est la bonne période puisque avec l'hiver, les routes sont plus glissantes. Donc c'est intéressant de vérifier l'état des pneus, l'état des freins notamment. Et puis c'est la période où on a une demande un petit peu plus faible dans la période où on arrive, novembre, décembre. Et donc c'est le bon moment pour faire une révision. Depuis quelques années, on voit qu'il y a de plus en plus de vélos sur Angers. Et puis dans le domaine de la réparation, il y a, surtout en ville, il y a toujours de quoi réparer des vélos. Les gens ont toujours besoin. C'est vraiment les gens qui veulent faire une révision avant de repartir pour une saison en sécurité. Ou les gens qui viennent pour une petite bricole, une crevaison, un cap de frein, des choses comme ça.
Baptiste, qui a remplacé le vélo-bar situé au même endroit il y a quelques années, est vraiment en plein centre-ville, dans une rue à sens unique, prioritaire au vélo. Il est donc au cœur de l'action pour témoigner, alors j'ai profité de cette rencontre pour lui parler des vélos cargo, toujours plus nombreux à sillonner nos villes et comment on s'adapte en atelier.
Alors oui, j'en vois beaucoup passer dans la rue, c'est avec plaisir que je les répare, au moins sur la partie mécanique. Tout ce qui est la partie électrique, je redirige la plupart du temps les cyclistes vers des magasins électriques qui sont plus à même que moi de faire ce genre de réparation. Le vélo est plus lourd, donc ne serait-ce que pour le porter, pour l'installer sur le pied, c'est mieux d'être équipé d'un pied électrique, moi ce que j'ai pas à l'atelier. Et puis on va avoir des parties motorisation, la partie transmission des fois qui se passe à courroie, des directions à tringle, donc c'est vraiment il peut y avoir des pièces spécifiques. Et là dans ce cas-là, c'est mieux d'aller voir directement le fabricant ou alors le spécialiste du vélo électrique.
Des vélos spécifiques donc, mais Baptiste saura toujours vous dépanner et vous donner le meilleur conseil possible pour vous et votre vélo. D'ailleurs, en tant que spécialiste, je lui ai aussi demandé comment on fait pour se déplacer dans les meilleures conditions cet automne.
Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de mauvaise saison pour rouler à vélo, on peut rouler vraiment toute l'année. L'hiver, il suffit juste de bien se couvrir, d'être bien éclairé, donc des bonnes lumières. Et puis bah, une bonne révision, mais avec des bons vêtements adaptés, chauds et imperméables, et un bon éclairage, il n'y a aucun souci.
Eh bien voilà, c'est clairement dit. Je remercie Baptiste de m'avoir reçu chaleureusement. Et puis, quand je suis reparti de chez lui, seulement quelques centaines de mètres plus loin, eh bien, vous savez quoi ? J'ai la roue arrière de mon vélo qui a crevé. Coïncidence ? Je ne crois pas. Allez, salut les cyclistes, et rendez-vous dans une prochaine aventure Vélopédia.
Nico, que l'on retrouve dans deux semaines pour une nouvelle chronique vélo. Dans quelques instants, Mathéo prendra le micro pour sa chronique d'actu, mais en attendant, on va s'intéresser à une tournée solidaire d'Antopette. Ce soir, on est avec Nico du groupe Tagada Jones, un groupe de rock français qui co-organise la tournée du cœur en partenariat avec les Restos du cœur. C'est 14 dates dans toute la France, et bien au-delà d'un événement musical, c'est surtout un événement solidaire, puisque l'objectif c'est de pouvoir offrir 100 000 repas aux plus démunis. Est-ce que Nico, vous pouvez nous expliquer la genèse de ce projet ?
Oui. Alors en fait, c'est vrai que cette année 2024 pour le groupe, c'est l'année anniversaire, une année anniversaire, parce qu'on fête nos 30 ans. Donc on a fait plein de choses, un Olympia, un gros festival, on a fait un concert avec un orchestre philharmonique, voilà. Donc on a fait beaucoup de choses, mais on n'imaginait pas clôturer cette année sans un événement caritatif et solidaire, parce que c'est vraiment dans l'ADN du groupe. Et quand on s'est penché sur l'idée, donc c'était fin 2023, c'était une période où on entendait pas mal parler des problèmes que pouvaient rencontrer les Restos du Cœur pour boucler leur budget de fin d'année. Et là, on s'est dit, bah voilà, c'est vraiment la structure idéale qu'on a envie d'aider. Et on a pris donc contact avec les Restos au niveau, à l'échelle nationale, qui eux ont accueilli l'idée les bras ouverts. Même on connaît évidemment tous le grand spectacle des Enfoirés, qui est un spectacle variété, mais finalement des groupes de rock qui mènent des actions comme ça, c'est arrivé au coup par coup, mais il n'y a jamais eu d'action un peu plus, je veux dire, costaud comme une tournée complète. Donc vraiment les Restos ont accueilli la nouvelle avec joie et nous ont même dit, mais c'est vraiment super, parce qu'en fait ça arrive de toucher évidemment un autre public, d'autres gens, et pourquoi pas d'ailleurs susciter d'autres envies par la suite pour d'autres groupes. Et je peux même dire que c'est génial, parce que moi j'ai déjà trois groupes qui m'ont contacté pour savoir si on pouvait travailler avec eux sur une V2 du projet pour l'année prochaine, pour qu'il y ait une autre tournée du cœur. Donc ça, je trouve ça vraiment génial.
Et donc, il y a 50% des recettes des concerts qui vont être reversées au Resto du Cœur et 100% du merchandising. Combien ça va générer en tout à cette tournée?
En gros, voilà, on dit qu'un repas, ça coûte en moyenne à peu près 1 euro. Donc, c'est sans doute au minimum 100 000 euros, sans doute un peu plus. Enfin, le merch, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà, c'est l'idée, c'est d'être entre 100 et 150 000 euros, quoi.
Et donc, c'est une tournée un petit peu particulière de celle que vous avez l'habitude de faire. Comment vous allez vous organiser?
En fait, on s'est mis d'accord. En fait, toutes les conditions sont mises au minimum. Alors évidemment, il y a quand même des conditions de salariat minimum, mais tout le monde joue le jeu, techniciens, musiciens. On va tous ensemble dans un même bus, ce qui est en plus relativement écologique puisqu'on met trois groupes dans le même bus et on part avec un seul kit commun, pas d'artifice, pas de beaucoup de lumière. C'est vraiment un kit dans la plus simple. Le plus simple appareil, je pense que je ne pourrais pas ce que dire. Et en fait, voilà, tout le monde joue le jeu aux conditions minimum pour pouvoir donner justement le plus d'argent possible au Resto du Cœur. Et c'est vrai que c'est vraiment le projet a parlé tout de suite à tout le monde, toutes les équipes, et je tiens à souligner d'ailleurs l'investissement aussi des techniciens, parce qu'en fait les musiciens, bon voilà, c'est une chose, on a eu cette idée-là, on est vraiment content de le mettre en place, mais tous les techniciens jouent le jeu et ça nous a vraiment fait plaisir, quoi.
Donc c'est un événement très très solidaire, est-ce que c'est une valeur que vous essayez de porter au travers de vos musiques dans le groupe Takada Jones?
Ouais, en fait, évidemment, on est un groupe plutôt même pas mal engagé et ça fait des années qu'on chante des choses. Je dirais presque, évidemment, une vocation de musicien, c'est de faire passer son message à travers la musique, mais on a toujours essayé, évidemment, de mettre les actes en face des mots. Et chaque année, on faisait des événements caritatifs. On disait, bon voilà, on fait un minimum de 4-5 événements, concerts caritatifs. Mais c'était plutôt des actions disparates et c'est la première fois qu'on met une action un peu plus costaud en place où effectivement c'est une tournée complète caritative. Mais c'est une évidence que c'est évidemment dans l'ADN du groupe que d'avoir des actions sociales et humanitaires.
Mais donc c'est pas la première fois que vous organisez un événement caritatif, vous l'avez déjà fait auparavant, vous aviez fait
quoi ? On a déjà fait beaucoup d'événements isolés, par exemple on a fait des concerts par exemple pour Sea Shepherd, des concerts pour Greenpeace, on a fait aussi des concerts par exemple pour des enfants malades, c'est arrivé plusieurs fois à l'hôpital, un enfant malade, ses parents ont bien du mal à payer toutes les charges parce que c'est vraiment des coûts très très importants. On a fait un concert caritatif pour donc tous les dons vont à l'enfant. Enfin voilà, tous les ans c'est différent. C'était des actions, des concerts isolés. On faisait un concert et l'argent du concert allait à une action. Mais là c'est la première fois qu'on fait une tournée complète pour une action.
Donc la solidarité c'est vraiment dans l'ADN de votre groupe comme vous disiez. Et vous n'allez pas partir seul sur cette tournée. Vous serez accompagné par Darcy et Rivage Club. Est-ce que vous pouvez ajouter un petit mot sur ces deux groupes qui vont venir avec vous?
Oui, là c'est plus deux groupes un petit peu découvertes parce qu'on a envie finalement. On se disait que c'est quand même sympa de en plus de cette action caritative d'amener des groupes avec nous et de faire découvrir d'autres groupes de rock qui eux aussi participent à l'aventure et de la même façon. Je le signale aussi parce que aussi jouent le jeu de justement des conditions minimum et du fait de tout jouer avec le même backline et avec le même décor. Et en fait, comme ça, on peut présenter deux autres groupes qui, eux aussi, chantent en français. C'est le point commun comme des trois groupes. Hein. C'est trois groupes qui chantent en français. Ravage Club, c'est un groupe de Lille avec un duo homme-femme au chant qui est plutôt un peu plus rock'n'roll, je dirais. Et puis Darcy, c'est un groupe rennais. Là, on est vraiment sur les petits frères de Takada Jones, hein, qui est plutôt... Ils sont plutôt dans le même style, avec une musique assez énervée aussi, et évidemment toujours un chant en français.
Alors vous n'êtes pas vraiment un groupe découverte, 10 albums studio, 37 millions de streams audio, 43 pays visités et près de 2000 concerts. Vous avez vraiment su vous imposer comme une référence incontournable?
Oui, en fait, ce qui est étonnant en plus, c'est qu'évidemment, nous, on vient vraiment des cendres de la scène rock alternative, hein, puisqu'on est né, le groupe a commencé en décembre 1993, donc c'était la grande vague rock alternative français. Et nous, on a commencé effectivement par des réseaux très alternatifs, des squats, des tout petits cafés-concerts. Et puis petit à petit, le groupe a grossi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, le Tagarejos n'a jamais été aussi costaud que ce qu'il est aujourd'hui. Et on a même le plaisir de voir plusieurs générations qui viennent au concert. Il y a aussi énormément de jeunes qui viennent nous voir. Je crois que c'est la particularité de Tagada, c'est sûrement ce qui fait aussi sa longévité, c'est que le jeune public se retrouve évidemment dans nos valeurs et reconnaît finalement que, comme le groupe n'a jamais changé de voix ni de fusil d'épaule, ben reconnaît un petit peu cette toutes ces valeurs et donc vient adhérer à notre musique. Et c'est vrai que là-dessus, on a la chance vraiment d'avoir un public très très jeune.
Bah, vous dites justement que vous avez un public très jeune. Est-ce que le rock est toujours autant populaire qu'auparavant? Est-ce qu'on en a une vision différente d'avant?
Oui, là, je pense qu'il faut être, je le disais tout à l'heure, on a eu les grandes vagues du rock alternatif français où c'était tout simplement la musique à la mode. Aujourd'hui, c'est terminé. On est bien sûr plus sur les musiques urbaines et l'électro. Et le rock est passé un petit peu en deçà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, bien au contraire. Et des succès de festivals, par exemple, comme le Hellfest, montrent bien qu'il y a quand même énormément de gens encore à s'intéresser aux musiques métal, rock dur. Et je crois que même si c'est plus la musique à la mode, il y a quand même toujours un public qui est là, qui est présent, mais qui est surtout très fidèle. Sûrement un public moins volatile que par exemple dans les musiques urbaines.
Et donc en tout, il y a 14 dates au travers de toute la France, dont Angers. Est-ce que vous étiez déjà venu à Angers auparavant ?
Oui. Alors évidemment, comme on est originaire de Rennes, on a quand même souvent joué à Angers. On a déjà joué plusieurs fois au Chabada. On a joué plusieurs fois aussi juste à côté, à Mur-et-Rignier, que ce soit dans un concert dans la salle ou pour le festival Omega Sound. Enfin voilà, on a quand même fait pas mal de concerts dans le coin.
Donc on le rappelle, ce sera le 22 novembre au Chabada Angers. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour toute cette première édition, pour cette première tournée ?
Mais en fait, je crois que là, sur les derniers pointages, on est pas loin d'être complet dans beaucoup de salles. On peut juste souhaiter qu'évidemment, ce soit complet partout et qu'il y ait beaucoup de gens à venir aider, soutenir la cause. Et puis je crois aussi que ce qui est important de souligner, c'est que dans chaque date, il y aura une antenne locale des Restos du Cœur qui seront là, qui tiendront un stand avec des bénévoles et ce sera l'occasion notamment pour nous, pour le public, d'échanger avec ces gens qui peuvent raconter un petit peu une version, je dirais, moins connue de l'action des Restos du Cœur, c'est-à-dire vraiment le concret du terrain. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que ma maman s'occupe de la Croix-Rouge depuis très très longtemps, a fait des maraudes, j'ai été faire des maraudes avec elle, je sais ce que c'est, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent même pas ce que sont ces actions en fait.
Très bien, bah merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Nico, du groupe Tagada Jones qui part en tournée dans toute la France et qui passera le 22 novembre au Chabada à Angers. Vous pouvez réserver vos places sur le site du Chabada en ligne. Voilà, on vous souhaite un très bon courage et une très bonne tournée et plein de succès.
18h10, 19h, c'est Topette sur Radio G.
Bientôt la fin de l'émission, mais avant tout une chronique d'actu avec toi, Mathéo.
Si je vous dis FSER, est-ce que cela vous parle autour de la table ?
Moi oui.
Sarah, Lorelai ?
Pas du tout, non, désolé.
Nolwenn ?
Moi oui.
Aurélie ?
Non.
Moi oui.
Eh ben, je vais vous expliquer. Bah oui, Pierre-Benoît, toi, je sais que tu sais. Et de toute façon, j'ai une petite question à te poser au cours de ma chronique. Le sigle FSER signifie Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et tout est dans le nom. Si les radios libres existent depuis les années 70, avec notamment Radio Verte pour la nostalgie de nos aînés, c'est réellement en 81 qu'elles changent de dimension avec l'élection de François Mitterrand. Une arrivée au pouvoir synonyme de changement majeur dans le monde des médias et notamment pour la radio. C'est ainsi que le 9 novembre 1981, la loi numéro 81-994 entre en vigueur et bouleverse ce paysage. Fin du monopole de l'État sur les radios, début des radios privées et associatives. Ces radios privées qui existaient déjà, mais se devaient d'émettre autre part que sur le sol français, au Luxembourg pour RTL, qui à sa création se nommait Radio Luxembourg, ou encore Sud Radio, qui portait à cette époque le nom de Radio Andorre. Des projets naissent, surtout localement, pendant que d'autres évoluent et grandissent. Certains de ces projets, faute de moyens, semblent résignés à être éphémères, mais l'année 1982 leur réserve de grandes choses avec l'arrivée de ce fameux FSER, ce fonds de soutien qui est lancé avec une idée phare, permettre à ces radios de faire vivre le local et la culture tout en permettant un engagement bénévole large de la part de personnes pour qui la liberté d'expression forme une importance vitale. Et c'est ce que s'efforcent de faire ces radios associatives. Écoutez Francis Guillerot, modérateur de Les Locales. Pour l'information, Les Locales, c'est une association qui réunit CNRA et SNRL, qui sont eux-mêmes la Confédération et le Syndicat des radios libres et associatives. Et donc laissons Francis Guillerot parler des radios associatives. C'était en octobre sur le plateau du broadcast associé.
Les radios associatives en France jouent un rôle fondamental dans le paysage médiatique depuis plus de 40 ans, offrant une alternative précieuse. D'abord, elles sont un vecteur de pluralité culturelle et sociale avec une formidable diversité des contenus. Elles assurent la diversité des voix et des opinions. Elles offrent une vitrine aux cultures locales, aux artistes indépendants et aux courants musicaux moins diffusés dans les circuits traditionnels. C'est souvent sur ces antennes que vous pouvez découvrir des genres musicaux plus rares ou entendre des émissions consacrées aux problématiques sociales, politiques ou environnementales. Ensuite, elles sont un acteur clé de la communication sociale de proximité. En tant que structure locale, les radios associatives favorisent l'expression des citoyens. Elles permettent aux habitants de prendre la parole sur des sujets qui les concernent directement, qu'il s'agisse d'initiatives locales, de débats citoyens ou de l'organisation d'événements culturels. Cette dimension participative est essentielle dans des territoires parfois délaissés. Et enfin, les radios associatives jouent un rôle important dans l'éducation aux médias et dans la formation des jeunes. Elles forment de nombreux salariés et bénévoles au métier de la radio et participent activement à la transmission des compétences techniques et éditoriales.
Dans les grandes lignes, le FSER subventionne annuellement, de par une aide au fonctionnement, mais aussi une aide à la programmation s'il la juge d'intérêt général, social ou éducatif, et enfin une aide pour les nouveaux projets. Pour être éligible à ce financement, les radios ne doivent tout simplement pas avoir un revenu commercial supérieur à 20% de leur chiffre d'affaires. Pour Radio G, cela représente presque 3/4 du financement de la radio annuellement. Cette aide, qui est financée directement par une taxe mise en place sur les publicités présentes à la radio ou à la télévision, représente en 2024 35 millions d'euros. Le vrai tournant qui a amené de tels montants, on le retrouve autour du début des années 2000, avec notamment l'arrivée de plus en plus massive de nouvelles radios associatives sur Angers. On peut parler notamment de Radio Campus Angers. Malgré la numérisation, le FSER a toujours été présent pour nos radios, soutien majeur de cette transition. En 2015, le FSER est devenu plus sélectif avec des aides plus proportionnelles, avec, je cite, les radios les plus actives en matière de communication sociale et de proximité. PB, je me tourne vers toi. Je t'avais dit que j'allais te poser une petite question. Comment à Radio G on obtient justement ce FSER et cette aide?
Eh ben, comme toutes les radios associatives, on doit répondre à des critères en lien avec des valeurs associatives, justement, en termes de promotion du territoire, de l'activité culturelle, de l'activité sociale également. Le fait même d'être partenaire, par exemple, avec le TAG, la médiathèque de la Renrouloux, permet de valoriser l'existence de ces partenariats-là et puis de prétendre à la constitution de ce dossier pour pouvoir avoir la somme qui permet simplement de nous faire exister.
Est-ce que ça aide d'avoir une quotidienne? Du coup, dans la radio.
Le Topette est là pour ça. Un Topette est là pour fixer les partenariats qui permettent ensuite de constituer le dossier au FSER et donc d'offrir la possibilité aux autres émissions qui, elles, ont moins la contrainte d'avoir des partenariats de pouvoir avoir leur programme sur cette antenne.
Merci pour cet éclaircissement. Pierre Benoît, aujourd'hui, plus de 700 radios bénéficient de ce fonds, représentant en moyenne 40% de leur financement. Elles qui sont obligées de compter le moindre centime, des centimes et surtout des milliers d'euros qui sont aujourd'hui menacés. Début octobre, un projet de loi de finances lié au budget 2025 a été annoncé par Rachida Dati. La culture, c'est toujours du tout cuit lorsque l'on souhaite faire des coupes budgétaires. Et dans ce sens, la ministre avait prévu de diminuer de 30%, équivalent à 10 millions d'euros, le FSER. Revenu à une radio, cela signifie environ 15-20 000 euros, soit la présence au sein d'une radio d'un employé. Par exemple, pour Jean-Marc Courrèges-Sénac, coprésident de l'association Les Locales, qui expliquait dans les colonnes de Télérama cette baisse de financement, eh bien, elle met en danger directement 80% des radios associatives françaises, toujours sur le broadcast associé, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube. La vidéo dure une demi-heure. Eh bien, il revient en profondeur sur les dangers et, comme il l'appelle, ce coup de guillotine fait aux radios associatives.
On voit qu'on n'est pas sur une simple coupe budgétaire. c'est vraiment un cataclysme pour les radios associatives. Parce que, alors que, je le répète, l'aide à l'exploitation n'avait pas progressé depuis 2002, même elle avait baissé, mais là on doit avoir une baisse de 30% sur des économies qui sont déjà fragiles, où les leviers de financement n'existent pas, ou alors sont très très limités, et encore plus limités, puisque dans ce PLF 2025, les collectivités locales et territoriales sont elles aussi, voient en tout cas elles aussi leur financement être sabré. Donc nous n'avons pas 36 000 leviers de financement au niveau des radios associatives. C'est vrai que dans un premier temps, lorsque l'aide à l'exploitation n'a pas progressé à partir de l'année 2002, c'est vrai qu'on a réussi à trouver des leviers de financement supplémentaires, mais qui très souvent provenaient de collectivités locales ou territoriales, ce qui nous a permis de compenser en fait la hausse des charges qui, elle, a toujours été constante et qui même s'est accélérée ces trois dernières années. Donc on le voit, cette coupe budgétaire, elle va plus que fragiliser les économies déjà fragiles des radios associatives. C'est un coup de guillotine, comme on l'a expliqué déjà dans le communiqué de presse qui a été envoyé.
Et aujourd'hui, ce système qui permet aux radios associatives de réunir autant de bénévoles au sein d'une seule et même structure est donc mis en péril. Une opération coup de poing résulte de cette annonce, preuve en est en ce studio où on trouve quelques petits prospectus et surtout une pancarte juste là à ma droite, massivement couvert par les autres médias. Preuve en est l'article de Télérama dont je vous ai cité un extrait, mais aussi Libération ou encore le Courrier de l'Ouest qui en a sorti un très complet. Les choses ont évolué sous l'impulsion de la députée Béatrice Bellamy et surtout de la Commission des affaires culturelles et éducatives. L'expression d'une opposition unanime a été prononcée le 29 octobre dernier. Une question au gouvernement a été adressée au ministre délégué au budget, Laurent Saint-Martin, sur le sujet de ses inquiétudes. Cette journée et surtout cet échange entre les députés et le ministre délégué ont été des éléments clés dans la restauration du FSER. Dans ce dernier, la députée Bellamy a annoncé que la commission des affaires culturelles et éducatives a adopté un abonnement rectificatif augmentant de 12 millions d'euros le FSER, prévu pour 2025. Un joli rebond, puisque la baisse de ce dernier était prévue aux alentours de 10,4 millions d'euros. Les radios associatives pourraient donc gagner au change. Et dans son comté, Laurent Saint-Martin a annoncé que le gouvernement s'engageait à maintenir les crédits FSER à hauteur de ceux alloués en 2024. C'est donc une belle victoire pour nos radios locales. Mais alors pourquoi je vous en parle si tout cela est réglé? Eh bien car avant toute chose, c'est important de le savoir et de bien comprendre que ce que cela représente, mais aussi car nous parlons uniquement du budget 2025. Rien ne nous garantit qu'en 2026, le gouvernement décide de revenir sur sa décision. Il faut donc maintenir la pression et dans ce sens, nous avons besoin de vous, auditeurs et auditrices de Radio G. Il nous faut également pas, dans cette belle victoire, oublier que la culture qui souffre déjà va continuer d'être le martyr de l'État sur les questions de baisse budgétaire. 150 millions d'euros en moins sur le budget culture 2025, amputant 15 millions d'euros aux monuments historiques ou encore une dizaine de millions pour le pass culture. Il faut donc s'appuyer, souder et peut-être alors arriverons-nous à sortir de cette vague avec seulement quelques égratignures.
Merci beaucoup Mathéo. Mathéo qui a bien compris d'où venaient les sous qu'il ne payait pas, puisque non, il est bénévole ici, mais il a bien compris l'opportunité.
C'est moi qui vous paye, Pierre-Benoît.
Merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines pour une chronique d'actu qui sera peut-être un petit peu moins longue, on l'espère, mais même si elles sont toujours très intéressantes, Mathéo, tu restes le bienvenu, bien évidemment. Nous, on a juste une toute petite minute pour conclure avec nos invités de ce soir concernant le prix Sésame. Aurélie Lorelai, qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce prix dans les grandes lignes? Qu'est-ce qui est important de retenir, Sarah? Ou Lorelai?
Bon, alors déjà, avant toute chose, on vient de parler des problèmes, des besoins de faire vivre la culture encore et toujours. Alors s'il vous plaît, lisez un maximum, que ce soit roman, BD, peu importe, sortez, allez au théâtre, au cinéma, faites vivre la culture à votre échelle. Là, je parle pas que de Sésame, hein, je parle vraiment de la culture en général, c'est important, c'est essentiel.
Sarah ?
Ah bah
elle a tout résumé.
Ouais, je pense que Lorelai a bien résumé. Et voilà, pour nous, c'est déjà une victoire, une lecture d'un livre, une découverte. Donc voilà.
Eh ben, on pensera à vous la prochaine fois qu'on lira un livre. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans Topette.
Merci.
Les infos pratiques à retenir quand même concernant le prix Sésame, Aurélie?
Eh bien, il faut venir à la médiathèque ou dans une médiathèque ou vous renseigner auprès de votre comité d'entreprise. Et puis, on propose des exemplaires à lire de tous ces romans et de toutes ces bandes dessinées. fantastique.
Et justement, tu as deux ouvrages sous les yeux depuis tout à l'heure sur la table du sud. Non, ça n'a rien à voir. Tu vas lire après.
C'était Wei Wei, c'était l'artiste qui viendra à la médiathèque.
Concernant les deux dates qu'on a évoquées tout à l'heure. Fait. Et justement, les infos pratiques de la médiathèque, on les retrouve où?
Sur le site de la médiathèque, sur le site de la ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. On a aussi un Facebook, un Insta, donc il y a pas de souci pour trouver les infos.
Voilà, le 02 41, je sais pas si t'as le numéro en tête, mais de toute façon les gens conduisent à cette heure-là.
02 41 93 35 30.
Et ben voilà qui est donné. Merci beaucoup, on se dit peut-être au mois prochain, sinon dans deux mois avec la médiathèque de la Ranloup ou le THV surprise courant décembre. Merci beaucoup d'être passé ce soir dans Topette également, Aurélie. Demain on sera à WeForge avec Ben, Max, un petit peu Manu peut-être qui va passer par là, et puis aussi surtout qui va nous présenter.
C'est tout.